1, 2, 3. Le tango des élus, parole de Renaud Séchant, musique de Renaud Séchant, interprété de Renaud Séchant et tous ses musiciens, chanson courte mais suffisante. Et dire que chaque fois que nous votions pour eux, nous faisions taire en nous ce cri, ni Dieu ni maître, dont ils rient aujourd'hui, puisqu'ils se sont fait Dieu, et qu'une fois de plus, nous nous sommes fait maître. Et puis c'est tout. Moi je le fais mieux. Et alors du con.
Bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez Radio Campus Lille, il est midi, vous venez d'entendre Renaud, le tango des élus. L'intercommunalité, c'est fantastique. C'est feutré, il n'y a pas les habitants. C'est une phrase de Pierre Monroy. Donc ça donne pour la région un grand stade, le grand stade de Villeneuve-d'Ascq, qui a coûté 400 millions d'euros. La gestion de l'eau dans la communauté urbaine par le privé et ses 315 millions d'euros mystérieusement évaporés dans les caisses de la Seine, Société des Eaux du Nord, autrement dit de Veolia et de la Banque Suez. Le Louvre lance 150 millions d'euros, dont 90 payés par la région. Dans les villes, on chasse les habitants. Donc des sommes fabuleuses sont dépensées sans aucun intérêt pour 99% de la population. Comment en est-on arrivé là? Comment la politique a-t-elle été confisquée au profit de quelques-uns? Bon, bah, ce sont les thèmes que nous aborderons à partir de la présentation du livre de David Guéranger et Fabien Desage, « La politique confisquée », paru aux éditions du Croquant en mars 2011. Donc cette émission est illustrée de chansons françaises, Radio Campus Lille, et à partir d'une présentation qui a été faite à la librairie Meurat de Lille le 11 janvier 2012. Vous pourrez en écouter l'intégrale dans quelques heures sur le site de Radio Campus Lille, www.campuslille.com, émission LBCE. Ça n'est pas les bons calculs des élus, ce sont les bons calculs économiques.
Vous diriez que ça voudrait dire que les maires, quelque part, ça deviendrait une profession, fonctionnerait à l'intérieur avec ce consensus et comme ça, et que c'est de ce fait-là qui. Et si c'est profession, bah, ça veut dire que c'est pas de la démocratie, quoi, parce que ça fonctionne avec leurs règles internes.
Nous, on parle de corporatisme pour parler du. Donc, ça va exactement dans le sens de ce qu'on dit. Il y a une chose intéressante, par exemple, c'est de regarder comment est-ce que. Alors appelons-le le groupe si on veut être impartial, mais le groupe des maires a défendu d'une certaine manière ses avantages professionnels dans l'évolution des textes de loi, c'est-à-dire sur le statut, ce qu'on appelle le statut de l'élu local. C'est-à-dire, en gros, il y a eu un statut de l'élu local qui a été conquis sur la durée depuis les lois de décentralisation, qui faisait partie des grosses revendications des élus locaux dans les années 80-90. Ils ont eu à peu près tout ce qu'ils voulaient, hein, c'était sur la retraite, sur les mises à disposition, etc., les assurances, et ce qui est intéressant, c'est de voir que les avantages qu'ils ont réussi à obtenir pour le statut de l'élu local des collectivités locales est, dans la décennie 2000, quelque chose qui s'est étendu à d'autres institutions que les institutions locales au départ. Et donc, par exemple, pour les mandats intercommunaux aujourd'hui, il y a des dispositifs des sécurités et des protections qui sont apportées au personnel politique qui n'existaient pas auparavant. Donc, si on voulait modéliser ça de façon un peu géographique, voilà, il y a une extension des avantages corporatistes de la fonction de maire dans les textes de loi eux-mêmes.
Ce qu'on montre aussi d'ailleurs, c'est que pour le coup, l'intercommunalité, un de ses effets, c'était de favoriser très largement cette professionnalisation uniquement parce qu'elle donne des ressources. Faut savoir que beaucoup d'intercommunalités sont connues pour avoir un très grand nombre de vice-présidents. Alors j'ai pas regardé, c'est compliqué parce qu'Aline Martine-Aubry a resserré autour d'un G10, mais en fait il y a encore beaucoup de d'élus qui ont des mandats de vice-président, une quarantaine quasiment sur un exécutif, sur 170 élus. Donc ces élus-là, pour beaucoup d'entre eux, l'indemnité intercommunale et toutes celles qui sont annexes, parce qu'ils représentent la communauté dans d'autres structures, c'est la condition de la professionnalisation. C'est-à-dire, en sens politique, ce qu'on appelle professionnalisation, c'est quand on peut vivre de la politique aussi. Et pour beaucoup d'élus, notamment dans les communautés de communes rurales, où l'indemnité de maire, finalement, est assez faible, souvent c'est une indemnité qui peut être de 1000 euros pour un maire, vice-président d'une communauté urbaine, ou président, ce sont souvent des indemnités beaucoup plus conséquentes. À la communauté urbaine de Lille, c'est autour, vice-président sans les indemnités annexes, c'est autour de 2000 1300 euros hein, de mémoire. Donc ça veut dire ce sont des indemnités qui, ajoutées à celles de l'élu principal, l'élu municipal, on fournit un tableau détaillé dans le livre, permettent de vivre de la politique. Et ça explique aussi cela, c'est-à-dire qu'elles ont fourni, et on a une augmentation très importante du poids des indemnités globales des élus en France, qui a été suscitée par l'augmentation du nombre de structures intercommunales. Mmh. Donc ça fabrique aussi effectivement des professionnels de la politique, même chez des élus qui sont des maires de petites communes au départ, et qui peuvent ne vivre que de la politique relativement confortablement.
Il y a un tableau en fait qui permet
de voir un peu le poids des indemnités.
D'argumenter avec des chiffres sur cette idée en fait.
Cour des comptes de s'y attacher aussi là-dessus.
Alors là, le tableau, en fait, c'est assez marrant. Il est tiré il est coutumier du fait. Vous connaissez ce député qui s'appelle René Dosière et qui régulièrement pose à l'Assemblée nationale des questions sur les indemnités des élus, le coût, je sais pas, moi, du cabinet des présidents de la République, etc., etc. Et donc c'est une réponse à René Dosière qui nous a permis de remplir ces tableaux. On n'aurait jamais eu les chiffres s'il avait fallu qu'on les obtienne auprès du ministère de l'Intérieur, parce que c'est le ministère de l'Intérieur qui aurait pu nous répondre sur ces questions-là.
Ils ont repeint les poteaux, ils ont repeint les poteaux. Avant, ils étaient gris, et ben maintenant, ils sont gris, et maintenant, ils sont gris. Ils ont mis des panneaux pour qu'on affiche bien dedans. Avant, on voyait plus les murs. Et ben maintenant, on voit plus les murs ni les panneaux. Ils ont mis des digicodes. Parce que c'est pas un moulin. Avant, tout le monde rentrait. Et ben maintenant, plus personne ne sort. Ils ont mis de la lumière dans une rue où y'a rien. Avant, et bien y'avait rien. Et ben maintenant, paye rien, mais on le voit bien. Eh ben y a rien, mais on le voit bien. Apprendre à sourire, ben c'est pas ça. Ils ont mis des caméras, comme ça, ça nous fera des souvenirs. Du genre, et passe à la maison, on va se mater cette vidéo, tu sais, celle où j'attends au feu rouge. Hein, c'est des chouettes souvenirs, ça. Non, c'est pas ça. Enfin, toujours est-il, ils ont mis des pauses minutes. Chien fasse caca. Avant, ils savaient pas où chier les pauvres. Et ben maintenant, eh ben on sait où chier pas. Ils ont truffé la place de bacs à fleurs sans fleurs. C'est pour faire des espaces. Mais c'est pas beau, puis c'est pas pratique, puis c'est pas drôle, puis c'est pas convivial, 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 mais c'est citoyen.
Ils ont viré les Roumains. Ils ont viré les Roumains. Ah, il y avait des Roumains. Et ben maintenant, il y a des Roumains un petit peu plus loin. Je suis allé voir plus loin. Je suis allé voir plus loin. Ils ont repeint les poteaux. Et maintenant, hein? Et maintenant, comment? Et maintenant, hein? Comment? Et maintenant.
Vous êtes à l'écoute de Radio Campus Lille. Vous venez d'entendre une chanson de Erwan Pinard. Ils ont repeint les poteaux de son album Sauver les meubles en 2012. Bon, on va continuer sur la politique locale. La politique locale, le consensus, l'influence des partis politiques sur la politique intercommunale, le consensus, l'entre-soi des élus locaux. Comment être autonome et faire ce que l'on veut ?
De phénomènes très structurels hein, sur l'organisation institutionnelle. Mmh. Est-ce que dans vos recherches, vous avez vu des différences un peu notables entre les agglomérations et qu'est-ce qui explique ces différences ? Est-ce que ça a des répercussions un peu significatives ou non ? Et puis par ailleurs, quel est un peu le rôle des partis politiques du coup localement et quels sont, comment se positionnent les groupes politiques au sein des intercommunalités ? Et enfin voilà, parce que la démocratie locale elle passe aussi par là. Et du coup là, vous avez beaucoup insisté sur le rôle de maire et sa représentation en tant que maire vis-à-vis de l'intercommunalité. Est-ce que l'échelon parti politique a une place ou non quoi ?
Très intéressant. Bah, sur les différences, peut-être d'abord, évidemment, c'est vrai, vous avez raison de le dire, les contextes et les configurations, notamment dans les équilibres politiques partisans locaux, peuvent influencer la tendance plus ou moins majoritaire de fonctionnement d'une structure intercommunale. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a travaillé notamment plus récemment, moi j'ai un peu essayé de travailler sur des cas limites, notamment Nantes, par exemple. Nantes, c'est intéressant parce que c'est une agglomération qui est ultra dominée par le PS. Donc, où le besoin de faire un consensus, arithmétiquement, n'existe pas. C'est souvent aussi une agglomération qui était présentée, justement, comme une communauté urbaine, qui a les coudées franches, etc. Et en fait, à la communauté urbaine de Nantes, ça fonctionne au consensus, et c'est justifié de la même manière qu'à Lille, ou à Chambéry, ou à Marseille, ou à Bordeaux, ou à Lyon. Donc concrètement, le discours de Jean-Marc Ayrault, le maire de la ville, résidentielle qui s'appelle Vertou, qui est connue parce que c'est une des villes où il y a le plus grand retard en matière de logement suite à la loi SRU, les 20% de logements sociaux de France. Elle est juste après Neuilly et puis je sais plus quelle ville parisienne, ils ont 3% de logements sociaux, c'est une ville de 25 000 habitants. Le gars est leader du groupe UMP au Conseil Général, il était candidat pour devenir président au Conseil Général donc Loire-Atlantique, et il est dans l'exécutif de Jean-Marc Ayrault à Nantes. Alors qu'il n'y a aucun besoin que ce gars-là soit dans l'exécutif, c'est un des leaders de l'UMP local, ils sont ultra majoritaires. Donc, il faut vraiment, voilà, la tendance lourde, je dirais, au fonctionnement consensuel, honnêtement, même quand on regarde dans des agglos, il y a une domination, c'est vrai à l'inverse, c'était vrai à l'inverse à Strasbourg, quand il y avait une. On trouve toujours des fonctionnements plutôt tendus vers le consensuel, même si effectivement, il y a des réajustements. Le cas de Lillois aussi de Martine Aubry est intéressant, quoi. Finalement, Martine Aubry, au départ, est arrivée sur un discours très critique vis-à-vis du consensus de Pierre Mauroy, en disant. J'arrive, le consensus, elle disait ça 6 mois avant, le consensus, il faut remettre ça en cause, ça paralyse l'institution, etc. De fait, elle a introduit des modes de fonctionnement un peu différents de ceux de Pierre Mauroy. Mais ce qui est surtout surprenant pour l'extérieur, c'est qu'elle a reconstitué un consensus en interne. Et elle est allée beaucoup plus loin dans la construction de sa majorité que ce qu'elle en avait besoin arithmétiquement pour créer une majorité de gauche. Elle avait électoralement largement les moyens de faire une majorité à gauche. Elle a choisi d'aller chercher le groupe des... Alors, le MoDem, hein, déjà, ce qui a fait débat au niveau national, parce qu'on lui a dit, vous êtes contre l'alliance avec le MoDem, mais vous avez des gens du MoDem dans l'exécutif. Et elle est allée chercher même des élus de l'UMP. Hein, concrètement, parmi les élus des petites communes, du groupe des petites communes, il y a des élus qui se sont présentés sous l'étiquette UMP. Ségard lui-même, soutenu par le Parti Socialiste à l'élection de commune ensuite, parce que en raison de ses positions au niveau communautaire, Henri Ségard était sur la liste de l'UMP aux élections régionales précédentes. Donc elle n'a pas pu mettre dans son exécutif Marc-Philippe Daubresse, qui était son opposant, ça l'aurait quand même, c'était un peu difficile à défendre, même si Marc-Philippe Daubresse est premier vice-président de la commission finance, donc il a un rôle qui est loin d'être... Il participe au bureau, donc ils sont quand même très insérés dans l'exécutif. Mais voilà, donc il y a des différences, je dirais, géographiques, mais globalement, c'est quand même la tendance lourde au consensus. Du coup, j'ai oublié, pardon, votre deuxième question. Oui, alors les partis politiques, moi je pense que les communautés urbaines sont en quelque sorte des partitocraties. C'est-à-dire qu'en fait, elles sont à la fois... ce sont les maires qui y dirigent, mais les maires n'y jouent un rôle majeur que parce que les vecteurs et les intégrateurs des intérêts des maires, ce sont les partis. Mais donc les partis qui fonctionnent absolument pas comme des groupes faisant le lien entre des militants et des élus, mais plutôt des groupes politiques, on pourrait dire. Hein. Le groupe politique des élus, ils ont un rôle très important en communauté urbaine, mais dans la fabrication du consensus. C'est autour de la négociation entre les présidents de groupe et ensuite dans les groupes eux-mêmes que se fabrique le consensus. Et c'est permis par un élément important qui est justement l'éviction des instances partisanes. À un point fantastique. On ne peut pas comprendre pourquoi le Grand Stade à Lille, il a quand même été porté par Michel de Messine, qui est quand même une sénatrice communiste, si on ne comprend pas que le débat sur le Grand Stade et sur les positions de Michel de Messine au sein du Parti communiste lillois n'existe pas. Donc Michel de Messine ne peut tenir aussi ses positions de soutien explicite et de porteuse du Grand Stade, du PPP, du premier partenariat public-privé de France, du contrat de partenariat le premier en France, que parce que ce sont des éléments absolument pas débattus. Donc l'un des objets du livre, c'est de dire donner des armes aussi et des outils pour qu'au sein des organisations, des associations, des organisations politiques, les militants demandent des comptes à ces élus. Ils leur disent mais quelle position vous avez pris en structure intercommunale? Parce que pour l'instant, c'est tabou. Et pour cause, Michel de Messine devrait y défendre une position qu'elle a prise de manière ultra minoritaire, probablement par rapport aux positions des communistes ou des militants communistes locaux, de même que les élus verts peuvent être aussi mis en minorité si on discute de leur position sur la gratuité ou pas, ou le prix des transports, la vidéosurveillance dans les transports, etc.
Il y a une autre façon de répondre ou de placer le débat, c'est de regarder aussi le silence assourdissant dans les programmes des partis politiques sur ces questions-là. C'est-à-dire que c'est des questions qui ne sont pas politisées précisément. Alors bon, l'analyse tourne vite court. Enfin, quand même, ça nous donne un peu des indices sur la difficulté qu'il y a à faire remonter. Puis bon, voilà, je pense aux travaux de Savicky Lefebvre sur le PS qui montre la notabilisation du parti, c'est-à-dire la façon dont à un moment il est très largement verrouillé par des personnes qui sont des grands élus. Donc on a un parti qui n'est plus un parti de militants, mais qui est un parti d'élus locaux. Des élus locaux dominants. Donc à partir du moment où ces élus locaux dominants sont eux-mêmes partie prenante du jeu politique intercommunal, comment rend-on possible la possibilité de réformer ces institutions? C'est compliqué. Hein.
Je vous rappelle que cet enregistrement date de janvier 2012. Voilà, quelques petites explications sur la politique locale, les enjeux, l'influence des partis politiques sur la politique intercommunale, le consensus. Et maintenant, une petite chanson, Les Rois de la Suède, chanson Je rénove la gauche.
Les morts se sont réveillés, une rose a poussé, nous voilà en plein cœur de l'arche de la Noé. Martine Aubrich, c'est une bête, ça fait 35 heures qu'elle vous le répète.
100 km à pied, Fabius, Fabius, 100 km à pied, Fabius, on est sous le bas.
Car quiconque qui goûte un jour au pouvoir finit par se noyer dans son verre de rocard. Je rénove, tu rénoves, il rénove, nous rénovons, vous rénovez, il rénove, je rénove, tu rénoves, il rénove, nous rénovons, vous rénovez, il rénove.
Mulholland Drive, le mauvais cheval, c'est bad interdit de se faire un peu de mal. Jack Lang de Bois, c'est l'opéra de 4 sous, et ça fait des années
que mon bourg le mou.
J'ose pas vous le dire, y'a rien à faire, faudrait nettoyer tout ça au Kouchner. J'ose pas vous le dire, y'a rien à faire, faudrait nettoyer tout ça au Kouchner.
Je rénove, tu rénoves, il rénove, nous rénovons pour rénover, il rénove, je rénove, tu rénoves. Ma mère, arrête tes prières, ta gauche retourne en enfer. La paille, la royale, c'était que du folklore.
Alors qu'ils avaient tous entre les mains
de l'or, le constat est amer pour les éléphants. Le bon vieux Jaurès n'est plus qu'un mythe errant. Le constat est amer pour les éléphants. Le bon vieux Jaurès n'est plus qu'un mythe errant.
Strauss-Kahn. Pourquoi Strauss-Kahn? Eh ben Strauss-Kahn, il est à New York. Eh ben alors, pas de problème.
Ce qu'il faut voir, c'est que quand on travaille sur les réformes, et c'est le cas de la réforme, la dernière en cours, il y a beaucoup de trompe-l'œil sur l'attitude des maires. C'est-à-dire que si ça se fait, ce qu'on peut vous dire, je pense un peu, si ça se fait, ça se fera avec l'accord des principaux maires du coin. C'est-à-dire que quand on regarde aujourd'hui le fonctionnement des commissions départementales de coopération intercommunale, quand on regarde l'élaboration des schémas qui visent justement à remodeler la carte, on se rend compte qu'elles sont très largement tenues par les maires et leurs associations d'élus. Donc, c'est-à-dire qu'il peut y avoir du plus gros. Après, ce que montre aussi l'histoire d'intercommunalité, c'est que le plus gros crée pas forcément, ça crée de la différence du point de vue du citoyen, parce qu'effectivement, ça rend peut-être les choix, la capacité à élaborer des choix assez difficile à lire, ça rend les choses plus compliquées. Ça ne veut pas forcément dire, et pour l'instant, ça n'a jamais voulu dire ça, que ça créerait de la perte d'autonomie du maire. Ça ne veut pas dire, le maire risque de continuer à avoir relativement, à chaque fois, son mot à dire sur les enjeux communaux, mais il pourra le faire probablement en consultant encore moins son conseil municipal, en consultant encore moins les structures associatives ou locales, les partis politiques locaux. Donc il faut toujours bien comprendre ça. C'est une des choses qui est un peu compliquée à comprendre, c'est que on dit toujours l'intercommunalité, ça finalement c'est le rôle des communes. Nous, ce qu'on essaie de réaliser, c'est pas le rôle des communes, c'est le rôle des maires précisément, c'est-à-dire de ceux qui représentent la commune au sein de l'instance intercommunale. Mmh. C'est ceux qui sont renforcés. C'est pas la commune en tant que telle. La commune en tant que telle, les services communaux, le conseil municipal, les structures de délibération municipale sont plutôt affaiblies par le renforcement d'intercommunalité, mais pas les maires.
C'est une idée reçue contre laquelle il faut lutter. C'est-à-dire les maires eux-mêmes se font un peu le véhicule de cette idée selon laquelle on serait dans un jeu de vases communicants, c'est-à-dire que du fait des transferts de compétences, vous voyez comment ça se passe, c'est-à-dire que les communes transfèrent des compétences au niveau intercommunal, et donc si on regarde les choses uniquement sous cet angle-là, on se dit à mesure que les compétences se transforment, la commune se vide. Et donc il y a cette idée que les maires eux-mêmes défendent, selon laquelle plus on transfère de compétences au niveau intercommunal, c'est-à-dire plus on renforce l'intercommunalité, plus la commune est affaiblie. En fait, c'est une idée en trompe-l'œil. Si on travaille un temps soit peu en sociologue, on s'aperçoit que la commune, ça ne veut pas dire grand-chose, et que si on prend le premier magistrat de la commune, le maire, c'est complètement contrefactuel, c'est faux. C'est-à-dire, au contraire, le maire n'a jamais été aussi puissant et aussi fort depuis que l'intercommunalité s'est développée. Pourquoi ? Parce qu'il peut prendre des décisions, négocier des décisions en restant complètement maître de ce qui se passe sur le territoire de sa commune, parce que c'est pas ses partenaires maires d'autres communes qui vont lui imposer quoi que ce soit sur son territoire. Il peut prendre des décisions sans qu'à aucun moment ces décisions ne soient rendues visibles par ceux qui ont pu à un moment avoir une visibilité. Donc finalement, on a une espèce de renforcement de ce phénomène de clôture qui lui est très très largement bénéfique. Donc ça c'est un premier élément de réaction à ce que vous dites. Le deuxième élément de réaction, si on se place au niveau national, c'est que cette espèce d'idée de la grandeur, elle traverse l'histoire des réformes intercommunales depuis deux siècles. C'est-à-dire qu'on continue à courir après des territoires toujours plus grands. C'est-à-dire, on se demande quand est-ce que ça va arrêter. Peut-être que quand on sera au niveau du territoire national, je ne sais pas. Mais cette idée, c'est que toujours plus grand, plus grand, c'est mieux quand même. Voilà, c'est ça. Et on est donc dans le plus grand, c'est mieux. L'intercommunalité véhicule cette idée que le plus grand, c'est mieux. Et donc, elle colle à cet argument-là. Donc, ma première réaction en vous entendant, c'était aucune surprise. C'est-à-dire que la réforme territoriale soit une réforme qui s'alimente de cette idée qu'on sera plus efficace encore en étant plus grand encore, aucune surprise, et on peut même prédire que la prochaine dira la même chose. Voilà, donc
juste aussi dire, parce que j'ai repéré aussi la présence aussi d'acteurs aussi intercommunaux, et on pourrait dire, nous finalement, ce qui nous pose problème avec l'intercommunalité, c'est pas l'intercommunalité en tant que telle, c'est pas d'ailleurs, c'est plutôt d'une certaine manière, on lui reproche implicitement, même si on essaye de pas jouer le rôle qu'elle prétend jouer en fait. et de ne pas pouvoir le jouer. C'est-à-dire que ce qui nous pose problème, c'est qu'elle a été objectivement plus le renforcement, le moyen de renforcer, encore une fois, les modes de décision à huis clos, de renforcer des formes de compromis d'intérêt qui empêchent de choisir. C'est plutôt ça qui nous pose problème. C'est pas l'idée, je pense que tout le monde est prêt à souscrire à l'idée qu'il peut y avoir des instances de décision qui, justement, au niveau d'un territoire, peuvent prendre en compte les déséquilibres du territoire. C'est sûr que si on veut mener des politiques du logement au niveau de l'agglomération lilloise, c'est difficile de le faire au niveau communal, parce que si on veut véritablement mener des politiques de rééquilibrage, il faudra bien qu'une majorité à un moment donné dise à la commune de Bondu ou à la commune de Lambersart, les gars, vous avez beaucoup de retard en matière de logements sociaux, et donc on va pas vous offrir le choix. Vous dépendez de nos ressources pour tel ou tel plan, et donc on va à un moment donné vous imposer, parce que c'est la volonté de la majorité. Et qu'en démocratie, on a difficilement trouvé mieux que voilà, des formes de délibération majoritaire. On se dit majoritairement, il y a un groupe qui est majoritaire et qui peut avoir intérêt à ce qu'on mène des politiques à une échelle d'agglomération. Donc vous voyez, c'est tout ça pour, voilà, pour lever le... Et par ailleurs, hein, ce qu'on présente aussi dans le livre, c'est que ça crée des conflits. Les fonctionnaires intercommunaux, hein, sur lesquels on a travaillé pas mal l'un et l'autre, ne souscrivent pas, ça dépend de quel niveau, à quel niveau ils se situent, mais la plupart ne souscrivent pas à la logique d'évolution de l'intercommunalité. C'est-à-dire qu'ils sont extrêmement en attente, voire frustrée du fait que l'intercommunalité ne joue pas le rôle qu'elle prétend jouer. Beaucoup viennent dans ces structures en pensant arriver dans ce qu'ils entendent, c'est-à-dire dans la structure moderne par excellence, qui a vocation à décider au niveau du territoire, et quand ils y arrivent, ils se rendent compte qu'ils doivent composer pour n'importe quelle décision les urbanistes avec le maire localement, qu'il peut y avoir un blocage uniquement parce qu'un maire à un moment donné a refusé telle décision, que ça va prendre 6 mois donc il y a une vraie, et souvent, ce qu'on montre aussi dans le livre, c'est que les fonctionnaires intercommunaux qui croient en l'intercommunalité, en sa possibilité d'agir, sont souvent des vecteurs beaucoup plus puissants de politisation, c'est-à-dire de choix, que ne le sont les élus. Hein, concrètement, souvent, les fonctionnaires qu'on peut rencontrer dans ces structures regrettent l'absence de politisation intercommunale. C'est-à-dire que pour eux, le fait qu'il n'y ait pas, et ça se traduit concrètement par le fait qu'il n'y a pas d'arbitrage clair, c'est comme ça qu'ils le traduisent, hein, il n'y a pas d'arbitrage clair, il y a une confusion parfois des priorités, il y a une... Donc c'est ça, ce sont des effets concrets de l'incapacité structurelle, c'est ce qu'on essaie de montrer, structurelle des structures intercommunales à choisir un choix majoritaire.
Le fait que les fonctionnaires soient finalement des opérateurs de politisation face à des élus qui dépolitisent, c'est pas quelque chose qui est complètement nouveau, c'est-à-dire qu'on trouve ça dans d'autres institutions. Hein, ce qui fait un peu la spécificité de l'interco dans cette histoire, c'est qu'il y a des vagues de peuplement par les fonctionnaires qui montrent que leur disposition à politiser ou à ne pas politiser évolue dans l'histoire. C'est-à-dire, en gros, ce que Fabien a très bien montré dans ses travaux de thèse, par exemple, c'est que quand on crée la communauté urbaine de Lille, on la crée administrativement en s'appuyant sur des fonctionnaires qui sont des fonctionnaires municipaux et qui viennent à la communauté urbaine, et donc des gens qui arrivent aussi avec des habitudes, des routines, certains liens aussi clientélistes avec le personnel politique qui leur a permis de prendre leurs fonctions, etc. Et donc ça, c'est une première vague de peuplement administratif, appelons-la comme ça, qui a rendu difficile l'autonomisation administrative de la structure et le discours de politisation des fonctionnaires. Dans un deuxième temps, ce qui se passe, c'est que on a des structures qui se professionnalisent, on a une prise de la fonction publique territoriale qui devient plus importante, donc des gens qui sont du coup plus dépendants des concours que dépendants des relations qu'ils avaient pu nouer avec certains élus auparavant pour expliquer le poste et leur trajectoire professionnelle, et donc on a des personnels qui effectivement arrivent plus avec cette image d'une institution moderne qu'il s'agit de faire fonctionner mieux que ne fonctionnent les autres, etc. et qui là se montrent beaucoup plus réticentes à jouer avec les élus ce jeu du compromis et de la négociation permanente, parce qu'elle est effectivement en contradiction directe avec le besoin de lisibilité, de clarté qu'ils ont besoin, enfin qui est leur, pour pouvoir faire avancer leur dossier. Et puis il me semble, mais alors ça fait pas l'objet de travaux encore, mais qu'il y a une espèce de troisième temps là, troisième moment, alors qui concernerait peut-être plus l'encadrement ou l'encadrement supérieur, et qui tient aux mobilités professionnelles, c'est-à-dire en gros il y a des formes de mobilité professionnelle plus importantes parmi l'encadrement supérieur, y compris au sein des structures intercommunales, mais pas seulement au sein des structures intercommunales, et qui font que, là encore, il y a une dépendance moins forte vis-à-vis des élus, du fait que ces personnes-là sont assez faciles à recaser ailleurs, pour le dire un petit peu vite. Et donc là aussi, une disposition au consensus ou au compromis qui me semble un tout petit peu moins importante. Ce qui est assez marrant, finalement, c'est jamais dit comme ça dans le bouquin, mais on pourrait le styliser de cette manière-là, c'est la politisation, on l'attend aussi de la... Enfin, les seules politisations qu'on voit transparaître, c'est celles qui viennent de la fonction publique territoriale, enfin des fonctionnaires. Il y a que là que ça bouge. Et quand on regarde ces institutions évoluer sur le long terme, les effets de cliquet qui, à un moment, permettent à l'institution d'être plus autonome, plus grosse, plus forte, plus, bon, etc., c'est très, très largement le fruit du travail des fonctionnaires qui sont dedans, plus que des décisions qui sont prises par les élus.
Vous écoutez Radio Campus Lille, excusez-moi. Donc, nous sommes samedi 23 mars, il est 12h30. Alors, tiens, une petite news. Salut la France qui paye ses impôts, envie de participer. Partant du principe qu'il n'y a pas que les riches qui ont des raisons de s'exiler en Belgique et que le Minimex, le revenu d'intégration belge, est largement supérieur au RSA, le MDR, mouvement des RMistes pour un exil en Belgique, a été lancé. Ce mouvement a secrètement pour but de montrer que tous les rémistes ne sont pas des feignasses qui passent leur temps devant la télé, que tous les maux de la France ne viennent pas de cette population largement ostracisée et qui compte prochainement tourner un clip détourné. Un échin, voilà, tout simplement un échin chez les milliardaires dans l'ex-patrie de Gérard Depardieu. Et après avoir tourné ce clip, ils iront manger une frite ensemble. Donc, ils ont besoin de tous les profils, de tous les âges. Donc, copions McDo en disant « Venez comme vous êtes ». Si vous possédez un passeport belge, ça peut être utile pour quelques plans. Si vous possédez une voiture, ben, informez-les. Cela ne prendra que quelques heures, ce samedi, de 11h à 14h. Alors, la manifestation était prévue pour le samedi 23 mars, mais je pense que pour des raisons météorologiques évidentes, elle a été reportée à la semaine prochaine. Vous avez toutes les informations dans l'agenda de Radio Campus Lille. Le rendez-vous était à la MDE ou alors le tournage du clip est en cours alors actuellement. Vous écoutez Radio Campus Lille, c'était un peu d'informations locales. Alors, eh bien, on va continuer. Joseph d'Anvers, album En Ville, un album, une chanson de 2007. La chanson En Ville, bien sûr.
Je suis parti, ne m'en veux pas, c'est trop petit pour moi ici. Je suis parti et c'est comme ça, on ne retient pas ce qui s'enfuit. Des comme toi, j'en connais des tas qui seront toujours mieux ici. Qui trouvent que là-bas c'est trop froid et nous laissent fuir avec dépit. Je ne suis pas de cela, j'aurais péri petit à petit. Tu sais bien qu'on ne se refait pas, on ne raisonne pas ceux qui s'ennuient. J'ai la vie devant toi. J'ai la vie après toi. Bien sûr, tu sais qu'il restera toujours une part de moi ici. Celle qui sommeillait dans tes bras et n'osait s'avouer jusque-là. Des choses que je ne te dirai pas, qui n'auraient pas leur place ici. Des choses qui sont trop loin de toi, quand on s'en va, c'est qu'on s'enfuit. J'ai la vie devant toi. J'ai la vie après toi. il y en a des tas qui vivent ici dans cette ville. Des fois je me dis qu'il n'y a que ça, Paris est une province enfuie. Je suis parti, ne m'en veux pas, c'est trop petit pour moi ici. Je suis parti et c'est comme ça, on ne retient pas ceux qui s'enfuient. Et j'ai la vie devant toi. Et j'ai la vie après toi. J'ai la vie devant toi. J'ai la vie après toi.
Vous avez raison, tout ne se ressemble pas entre Lille et Chambéry, et notamment, il y a des effets de taille, je pense. Alors, on ne s'est pas franchement penché sur le sujet, mais ce qu'évoquait Fabien sur le fait que, par exemple, à Lille, Aubry a été obligé de mettre en place un système de vice-présidence à plusieurs niveaux. C'est-à-dire, il y a une espèce de premier cercle, puis ensuite, à l'intérieur, un vice-président semble avoir. Hein. En dessous de lui, des espèces de second vice-président regroupés à l'intérieur d'un thème, le second vice-président au budget, ce second vice-président à je ne sais quoi, etc., bon, à la fiscalité. Ce que je ne trouve pas à Chambé, où l'agglo compte une vingtaine de communes et où en gros les règles, puisque tout ça est encadré par la loi permet d'avoir autant de vice-présidents que de maires qui composent la commune. Alors forcément, quand on arrive sur des cas comme Lille, où on dépasse les 80, ça pose un problème. Et la loi ne le permet pas, de fait. Donc ils sont obligés de trouver des solutions alternatives. Ce qui est assez marrant, parce que du coup, ils inventent des espèces de fonctions fictives, secrétaire du bureau, etc., pour justifier une appartenance au bureau qui ne rentre pas formellement dans le cadre qui est prévu par la loi et qui permet même de justifier parfois des indemnisations. On revient sur la question des indemnisations qu'on posait tout à l'heure, qui est elle-même encadrée par les fonctions qu'on joue dans l'exécutif. Par exemple, je pense qu'il y a des effets de taille qui vont d'une certaine manière nuancer ou déplacer le centre de gravité de l'analyse entre Lille et Chambéry. Il y a un autre effet, moi je pense, et là pour le coup on n'est pas outillé pour vous répondre, c'est l'effet rural-urbain. C'est-à-dire que je pense qu'il y a l'intercommunalité en milieu rural, même si elle affiche sur le plan de la cooptation entre maires et de la négociation entre maires des tendances relativement similaire, parce qu'il y a une thèse qui a été soutenue il n'y a pas très très longtemps, une thèse de Sébastien Vignon sur le Pas-de-Calais.
Sur la Somme.
Ces travaux montrent à peu près, sont assez convergents de ce point de vue-là. Néanmoins, sur la place des partis, sur les trajectoires professionnelles des maires, etc., il y a des singularités un petit peu par rapport à ce que nous on observe. Mais effectivement, dans le livre, c'est pas ces différences-là qui nous ont permis de bâtir l'analyse. On a plus insisté sur des choses qui semblaient étonnamment similaires quand on examinait des institutions qui étaient aussi distantes. Enfin, je parle pas de la distance géographique, bien sûr, mais je parle de la taille, de leur histoire, etc.
Vous êtes député, maire, sénateur ou conseiller régional, si après plusieurs années de vie professionnelle, vous avez le sentiment d'être inutile, de ne plus savoir où vous habitez et de manquer cruellement de prise sur le réel. Si vous consacrez plus de temps à exister dans la presse régionale plutôt qu'à user les bancs de l'Assemblée, alors il est possible que vous soyez atteint par le cumul des mandats. Loin d'être anodine, le cumul des mandats est une maladie spécifiquement française qui, d'après une récente étude du ministère de la Santé, toucherait près de 2/3 des parlementaires français. Cette maladie touche de plein fouet les individus présentant des angoisses chroniques au sujet du montant de leur retraite et ceux dont le train de vie nécessite de multiples rentrées d'argent. Le cumul des mandats frappe à droite comme à gauche et à ce jour, aucun traitement n'a pu ralentir sa progression. Pour agir, le ministère de la Santé met à votre disposition le site www.cumul-infoservice.fr ainsi qu'un numéro à disposition des élus, des familles et des administrés. Et une ligne téléphonique que vous pouvez appeler anonymement et gratuitement. Cumul Infoservice, bonjour Nathalie Desbrouillard à votre écoute.
Bonjour, ouais, on va dire que je m'appelle Jean-Michel B. Voilà, je vous appelle aujourd'hui parce que je suis au bout du rouleau. Je suis fatigué, dépressif. Je passe ma vie dans les TGV et les taxis. Je finis par voter des trucs que je n'ai même pas eu le temps de lire. Et puis, c'est difficile à dire, mais...
Oui, dites-moi, Jean-Michel, vous pouvez tout me dire, hein ? Jean-Michel ?
Oui, oui, je suis là, mais... Eh bien, pour tout vous dire, je suis sénateur, président d'un conseil général, président d'une communauté de communes, et accessoirement, je suis PDG d'un journal. Avec tout ça, j'ai l'impression que... Enfin, que je cumule tellement que je me gave comme une oie.
Ah, c'est malheureusement souvent comme ça que les choses se passent, Jean-Michel. Car comme on dit ici à Cumul Info Service, si tu avances et tu cumules, comment veux-tu que tu recules ?
Ouais, mais vous savez, dès qu'il y a le moindre scrutin, je me mets à transpirer. C'est plus fort que moi. Je me mets à caresser les urnes jusqu'au dépouillement final. C'est un peu gênant de dire ça, je le reconnais. Mais...
Non, mais pas du tout, monsieur Jean-Michel. Pour tout vous dire, certains de vos collègues finissent par dormir sur des matelas à côté des isoloirs pour être certains de ne pas rater une élection. Alors, si vous saviez... Hein.
C'est une drogue. Quand il y a une élection, si je ne vois pas ma photo sur les affiches, j'ai l'impression que je suis mort. Ah. Comme si je n'existais plus.
Ah bah oui, alors là, effectivement, on peut parler de cumul radical. Hein.
Vous ne croyez pas si bien dire.
Alors, pas de panique, monsieur Jean-Michel. Nous sommes là pour vous aider. Le plus important, c'est de décider qu'on arrête tous les mandats, sauf un. Je vais vous donner le numéro de téléphone d'un parrain qui vous indiquera les réunions de cumulards anonymes proches de votre permanence. Surtout, il faut tenir jusqu'à la fermeture des bureaux de vote.
Excusez-moi de vous couper, mais cet après-midi, il y a l'élection de Miss Tarn et Garonne et je me demande si je ne pourrais pas tenter ma chance.
C'était un message du ministère de la Santé.
Sophia Aram.
En pénétrant dans les villes mortes, nous avons oublié demain les cendres d'un petit jour malsain. Nous entraînait de porte en porte, ouvertes sur les yeux crevés de leurs pathétiques fenêtres. Les maisons semblaient refermées, leur cœur éclaté de mitraille, où des enfants savaient déjà, et leurs moignons impérissables, dans l'aube de ce matin-là, les ruines des châteaux de sable. Faut bien vivre, vaille que vaille, plus rien attendant du sang peut-être. En atteignant le bout de la route, nous avons regardé en arrière vers nos amours aventurières, mais elles s'étaient perdues sans doute. Au linteau des granges noircies, on les avait cloués de rage. Leur tête enfermée dans des cages semblait vouloir nous regarder. Avec des yeux déjà voilés, comme des têtes de massacre, des bouches nous lançaient des cris qui se perdaient dans le ciel poicre. Les canons roulaient leur vacarme, plus rien. Attendant même des larmes. Chemin, les yeux baissés dessus la terre, entre les croix des cimetières, mais on ne distinguait plus rien que tous les porteurs de reliques menant leur danse frénétique avec des porteurs d'uniformes, rien des couleurs et rien des formes, que des grimaces d'oriflammes. dans cette obscurité de flammes. Quand on voudrait des choses comme, quand on voudrait des choses comme, plus rien espérant, même des hommes. Plus rien espérant, même des hommes. Plus rien espérant, même des hommes.
Vous écoutez Radio Campus Lille, une sélection de chansons sur la ville, ainsi que des extraits de la conférence sur le livre « La politique confisquée », donc une conférence donnée à la librairie Meura à Lille le 11 janvier 2012. Vous avez entendu auparavant la chanson « Les villes mortes » par Casse-Pipe, tout comme un billet de Sophia Aram de France Inter sur le cumulisme. Je vous rappelle que si vous êtes un élu, sur www.cumul-info-service.fr, vous pouvez trouver des conseils afin d'arrêter d'être obligé de vous lancer dans le cumul des mandats. Eh bien maintenant, on va parler des tensions au sein des partis politiques. C'est pas si simple que ça. Le suffrage universel et les exécutifs communaux, c'est simple. Hein. Le suffrage universel n'existe pas. Et le confort qui permet aux élus de rester entre élus. Vous écoutez Radio Campus Lille.
Les intéressants sont toujours pour l'essentiel les partis. Hein. Il y a des vrais effets. Je pense que l'intercommunalité, potentiellement, et ce qui s'y passe, peut mettre en tension, en fait. Hein, et concrètement, on a beaucoup de cas de tension au sein des partis politiques qu'on ne peut expliquer, en tout cas, que par notamment des positionnements liés à l'intercommunalité. Je pense à ça, notamment, pour ce qui est l'UMP. Jusqu'à récemment, un des conflits au sein de l'UMP, hein, le secrétaire départemental de l'UMP du Nord, Thierry Lazzaro, enfin, ex-secrétaire départemental, Thierry Lazzaro avait des positions extrêmement critiques vis-à-vis du consensus et du rôle que jouaient les élus de droite métropolitains, puisque Marc-Philippe Daubresse était le premier vice-président de Pierre Mauroy, etc., qui ne s'expliquait que parce que Thierry Lazzaro, précisément, il n'est pas élu dans la communauté urbaine, il est élu juste à côté, dans la communauté de communes, je crois, du PVL en Mélantois. Donc ce qui lui permettait, en fait, hein, ce qui a d'ailleurs été expliqué par les élus de droite locaux comme ça, ils disaient, mais Thierry Lazzaro, il peut nous casser la baraque, parce que lui, finalement, c'est pas gênant pour lui de pas être dans le consensus. C'est pas comme le maire de Lambersart qui a besoin de la communauté urbaine pour réaliser ses politiques publiques, son quartier développement durable, ou je ne sais quoi. Donc c'est des études qui restent à faire, hein, qui resteraient à mener. Il y a notamment, je pense à Anne-Sophie Petit-Fils, justement, qui fait une thèse un peu sur le RPR, UMP ensuite, et qui montre ça, c'est-à-dire qui montre que les positionnements des élus de droite vis-à-vis des intercommunalités majoritairement présidées à gauche dans le Nord-Pas-de-Calais sont des éléments de tension quand même qui reviennent de temps en temps entre élus eux-mêmes, selon s'ils sont majoritaires ou s'ils sont minoritaires dans un exécutif majoritairement ou présidé par un élu de gauche. Mais il y a des vrais travaux à mener là-dessus. Nous, notre hypothèse quand même, hein, on veut pas que tout faire tenir par l'intercommunalité et le fil intercommunal, mais c'est que ça produit des effets sur le fonctionnement même des partis politiques, sur le fonctionnement des associations qu'il faut évaluer, quoi. Et clairement, il y a une logique circulaire. Hein, aujourd'hui, c'est ça aussi. En général, on peut nous demander parfois, mais le suffrage universel. Mais nous, ce qu'on répond à ça, c'est mais il n'y aura pas de suffrage universel. Pensant que ça fait 30 ans, enfin, il y aura le suffrage universel, ça fait 30 ans que c'est à l'agenda réformateur, qui a eu des majorités à l'Assemblée nationale de gauche, hein, ou qui a eu même des amendements qui ont pu être déposés par des élus qui, la plupart du temps, ne sont pas dans des exécutifs intercommunaux, donc ont un peu les coudées franches, ou sont dans le sens du suffrage universel direct, qui ont été remises pour l'instant tout le temps à s'inédier. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est précisément pourquoi, jusqu'à présent, ce mode de scrutin ne s'impose pas, et parce que de fait la majorité des élus n'en veulent pas. On a un Sénat de gauche aujourd'hui. David me disait, vous avez remarqué, une des premières décisions qui a été prise par le nouveau Sénat de gauche, c'était d'assouplir les conditions de décision des commissions départementales intercommunales dans le cadre de la nouvelle carte, et de renforcer le rôle des élus au sein de la définition des schémas. Donc ça a été d'assouplir et de renforcer le rôle des maires. Donc voilà. Moi, je cite souvent ça, hein, je ne sais plus si on le cite dans le bouquin, mais il y a quelques années, quand il était encore président de la communauté urbaine, j'avais rencontré Pierre Mauroy, et donc je lui demandais comment, justement, par rapport à ses autres mandats, comment il jugeait le mandat intercommunal. Et il m'avait répondu de manière très, très, très directe, très franche, il m'a dit L'intercommunalité, c'est fantastique, c'est feutré, il n'y a pas les habitants. Il m'avait répondu tel quel, donc c'est arrivé le mérite d'être très clair. Et il en était à un point de sa carrière où c'était ça le confort. Hein. Faut pas sous-estimer ça non plus, le confort que ça apporte aussi aux élus d'être entre élus.
Attache à certains lieux, ok, mais nostalgie à part, explique-moi un peu. Quel mérite et quelle fierté peut-on donc avoir à être né quelque part et non pas autre part? Quand on raconte sans honte qu'on vient d'un pays de cons, ne supportant pas qu'on ne parle pas un peu de chez eux, y'a des gens qui se vexent et nous pointent de l'index, nous disent non, non, c'est chez nous qu'on est les plus cons. Comment peut-on confondre à ce point le trou d'un cul et celui d'un nombril pour chanter comme le font les copains? Ma ville est la plus belle des villes, la plus belle des villes, la plus belle.
C'est une cité bigarrée, blanc, jaune et noir sont mélangés. Mais on s'est arrangé pour qu'ils se partagent qu'un seul quartier. Ici la démocratie est dans la rue, je te jure. Même si ça fait 20 ans qu'à la mairie y'a la même enflure. La même enflure. Que de jolies rues, de petits trottoirs dans ma ville. Chacun sa voiture, sa bagnole, son automobile. Tout le monde plaisante, cool, sympathique. Voyez comme sont mignons les petits commerçants et leurs flics. Quelle chance, quel bonheur d'être né dans cette ville. La culture rayonne sur un bon paquet d'imbéciles. L'économie est florissante grâce aux industries polluantes. Mais comme ça crée du turbin, tout le monde applaudit dès demain. C'est la joie dans ma ville, la joie de vivre tranquille. Par un bois de l'alcool.
Oh, wow, il joue au football.
Bah, tu parles d'un particularisme régional. Oh, les cons, si c'est ça, moi je me jette dans le canal. Comment peut-on confondre à ce point le trou d'un cul et celui d'un nombril pour chanter comme le font les copains.
Ma ville
est la plus belle des villes. Paraît-il qu'il faudrait retrouver nos racines et savoir d'abord d'où on vient pour savoir qui on est. Ça vaut peut-être le coup pour les Indiens, les exilés. Mais toi, fais pas ton malin, je t'ai toujours vu dans le quartier. Une fois vomi ton pastis et pété ton cassoulet. Une fois que les légendes celtiques te feront plus planer. Une fois que t'auras fini d'applaudir au corrida. Quand tu sauras bien d'où tu viens.
D'où tu viens.
Peut-être qu'enfin.
Enfin.
On pourra se demander où on va. Alors que certains invoquent la liberté d'expression pour que renaisse l'usage du langage de leur région. Moi j'en perds mon latin, mais ajoute sans rire. Finalement pas toi ou français. La question est, qu'est-ce que t'as de beau à nous dire? Hein? Hein? Je chante avec l'accent, c'est beaucoup plus sympathique. Non pas que je l'ai vraiment, mais ça plaît tellement au public. Je chante avec l'accent, l'accent des enfants du pays. Ces enfants qui pourtant comprennent rien à ce que je dis. Je chante avec l'accent, je suis un chanteur d'ici. Mais ton succès pourtant, tu te l'es fait à Paris. À Paris, la critique est branchée musique ethnique. Même si les flics n'aiment pas trop les voix exotiques.
Y'a pas à dire, c'est provinciaux, c'est comme les noirs africains. Ils ont le rythme dans la pose, c'est nouveau, j'aime bien. Puis au moins pendant qu'ils s'occupent de leur petit pays, on fait leur robe des marchands sans leur demander leur avis.
Avec l'accent de Marseille, y'a de quoi se faire du flouze. Avec l'accent de Marseille, y'a de quoi se faire du flouze. Avec l'accent de Marseille, y'a de quoi se faire du flouze. Sinon on se fera l'oseille avec celui de Toulouse. Comment peut-on confondre à ce point
le trou d'un cul
et celui d'un nombril pour chanter comme le font les copains.
Ma
ville
est la plus belle des villes.
Restez fidèles au 106,6 MHz, c'est à Radio Campus Lille. Donc, vous venez d'entendre des extraits d'une conférence donnée à la librairie Meurat de Lille à propos du livre « La politique confisquée » de Fabien Desage et David Guéranger aux éditions du Croquant. Bon, cette conférence dans son entièreté sera en ligne demain, dimanche, probablement. Que dire d'autre? Vous avez entendu Jeanne Chéral, cette ville n'est pas une ville, et vous venez d'entendre Les Malpolis, ma ville est la plus belle des villes. Donc je vous rappelle à la maison des étudiants de Lille 1 autour de Brassens le vendredi 29 mars à 20h30, c'est-à-dire vendredi prochain, avec Goun, Thibaut Defever, Dominique Boss, Michel Lebourg, Alain Laurent. Venez nombreux, ce sera très intéressant. Je vous souhaite une excellente fin de repas. Au revoir, à bientôt.